Et aujourd'hui, l'écologie radicale, peut-il en être autrement ?
Il est impossible d'être écolo en société parce que les structures qui sous-tendent cette société ne le permettent pas. Quand on habite en banlieue, consommer en circuit court avec des agriculteurs, c'est pas facile. Quand on habite en montagne, ne pas utiliser sa voiture, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut être radical et on sauvera pas le monde avec des tote bags précisément. Il s'agit d'oser aller à la racine de l'urgence.
C'était la jeune militante et essayiste Camille Etienne dans la matinale de France Inter le 18 mai. Aucun des pays signataires des accords de Paris n'est sérieusement sur les rails de ses engagements de réduction d'émissions de CO2 d'ici 2050. La transition énergétique envisagée par les nations les plus vertueuses n'apparaît pas aux yeux de la plupart des membres du GIEC et des spécialistes du climat comme étant de nature à renverser la tendance. Se développe alors dans le monde scientifique et dans la jeunesse éduquée des grandes villes occidentales, mais pas simplement, une sorte de radicalité nourrie par un mélange d'éco-anxiété et de sentiments de révolte devant tant d'aveuglement, de cécité de la part des gouvernants et de ceux, plus généralement, que l'organisation actuelle du monde et son économie ne cessent d'enrichir toujours plus. Cette cécité que l'historien Johan Chapoutot comparait dans un précédent enquête de politique à la cécité volontaire des gouvernants et des élites économiques britanniques et françaises des années 30 devant l'inexorable montée en puissance du nazisme. On ne voulait pas la voir parce que le nazisme investissait et rapportait de l'argent. Le nazisme était bon pour la croissance. L'écologie peut-elle encore rester modérée et pacifique ? Pour l'instant, elle l'est très largement et même si le commentaire général parle de montée de la violence, celle-ci n'est rien au regard de l'enjeu et de l'urgence. Nous en sommes tout au plus à une forme de désobéissance civile encore marginale. L'écoterrorisme dénoncé par le ministre de l'Intérieur n'a pour l'instant tué personne. Le paradoxe de la dite radicalisation d'une partie de la jeunesse, c'est que contrairement aux radicaux et aux extrémistes d'antan qui prenaient des solutions violentes, des révolutions pour une société idéalisée, utopique, irréaliste, les écolos radicaux d'aujourd'hui demandent aux dirigeants du monde d'être tout simplement raisonnables, c'est-à-dire d'écouter le consensus scientifique qui nous implore de changer radicalement nos façons de produire et de consommer. En réalité, la radicalité dont nous allons parler aujourd'hui et explorer les origines est une radicalité de la raison, concept apparemment contradictoire, apparemment seulement. L'écologie raisonnable peut-elle, au stade où nous en sommes, se passer de la radicalité, sinon de l'extrémisme ? Enquête de politique aujourd'hui plonge dans ce paradoxe qui va bousculer, c'est certain, beaucoup de nos certitudes et de nos habitudes. Deux personnalités vont nous aider à comprendre les origines et les mécanismes qui conduisent à cette écologie à la fois radicale et raisonnable. Laurence Onsell-Love, philosophe spécialiste de l'éthique, c'est une disciple de Jean Kelevitch et elle est l'autrice de La violence, faut-il désespérer de l'humanité aux éditions Le Retour. Mais avant cela, nous allons à la rencontre de Dominique Bourg, philosophe franco-suisse, professeur à l'université de Lausanne, auteur de Imaginer le monde de demain chez Maxima en 2021. J'ai été interviewé Dominique Bourg dans les locaux du Collège de France où il participait à un colloque sur la gestion juridique de la raréfaction de l'eau.
L'écologie radicale, c'est assez tardif. Il y a deux formes d'écologie radicale. Il y en a une qui est quand même assez politique, c'est les années 50-60, c'est Murray Bookchin, avec le municipalisme libertaire. Cette idée de municipalisme libertaire, c'est quelque chose d'assez fort aujourd'hui, ça attire une part de la jeunesse.
Et puis, États-Unis, donc, Murray Bookchin, ancien communiste dans sa jeunesse new-yorkais et qui est devenu un peu anarchiste.
An attempt on a civic basis.
Une tentative sur la base d'un quartier, sur une base civique à la campagne dans des zones urbaines.
Where people can get together.
Murray Bookchin avec la voix de Franck Olivard.
Into assemblies.
Des gens se retrouvent en assemblée sur des grandes questions sociales qui devraient être discutées le moment venu. Ça ressemblerait aux réunions municipales qui ont vraiment existé au début de la Nouvelle-Angleterre. Je ne parle pas de projections imaginaires, mais de situations qui ont pris forme dans l'histoire et ont existé temporairement et de façon récurrente. Les réunions municipales de la Nouvelle-Angleterre étaient organisées de façon parallèle à l'organisation des institutions étatiques. De vraies institutions libertaires du peuple ont ainsi coexisté avec celles de l'État.
C'est quelqu'un qui s'est formé lui-même. Alors, on ne peut pas dire que c'est le premier croisement entre anarchisme et écologie. Élisée Reclus, c'est aussi déjà, c'est le 19e siècle, c'est la France. Dans un domaine, alors vraiment purement pensé, ce qu'on appelle la pensée écologique, on a le mouvement très important des éthiques environnementales. Ça s'est né aux États-Unis avec Aldo Leopold, dans un texte très célèbre qui s'appelle « Almanach d'un comté des sables ».
En ce temps-là, nous n'avions jamais entendu parler de la possibilité de ne pas tuer un loup si l'occasion s'en présentait.
Lecture d'un extrait de l'Almanach d'un comté des sables d'Aldo Leopold, écologue et philosophe américain en 1949.
Deux secondes plus tard, nous voilà en train de cribler la meute de plomb. Quand nous eûmes vidé nos chargeurs, la vieille louve était à terre. Depuis lors, j'ai assisté à l'extermination des loups. J'ai vu le visage que prenaient bien des montagnes privées de leurs loups. J'ai vu les buissons et les jeunes plants brouter jusqu'à l'anémie, puis jusqu'à la mort. J'ai vu chaque arbre comestible défolié à hauteur d'un pommeau de sel, tandis qu'un vieux cerf tué par les loups peut être remplacé en 2 ou 3 ans. Une montagne mise à mal par l'excès de cerf a parfois besoin de 2 ou 3 décennies pour se reconstituer. Nous luttons tous pour la sécurité, la prospérité, le confort, la longévité et l'ennui. Le vacher avec ses pièges et ses poisons, la plupart d'entre nous avec des machines, des bulletins de vote et des dollars. Une sécurité excessive ne recèle, semble-t-il, que des dangers à long terme. Le salut du monde passe par l'état sauvage.
Ce courant des éthiques environnementales va se développer fin des années 60 et puis surtout années 70 jusqu'au début des années 2000. C'est vraiment un courant de pensée très très fort et dans le monde anglo-saxon, dans le monde scandinave, un peu en Allemagne aussi, un peu ailleurs, mais en France, alors pratiquement rien. Et c'est une critique de la question de l'anthropocentrisme. Et ça se construit déjà au 19e siècle. Et si on détruit la Terre, si on détruit nos conditions de vie, c'est parce que finalement on met l'espèce humaine à part. On en fait quelque chose au-dessus de tout. Et là, au contraire, ce sont des éthiques qui vont devenir soit des éthiques égalitaires, soit des éthiques écosystémiques. C'est-à-dire on remet en quelque sorte les êtres humains à leur place. Donc c'est une critique radicale. Alors ça se porte.
Une critique du progrès, c'est de la technocritique?
Oui, c'est un peu tout à la fois, mais c'est très intéressant de voir qu'on rentre par la morale, selon laquelle seuls les hommes sont des fins, tout le reste relève des moyens. Les écosystèmes, les plantes, les animaux, tout ça, ce ne sont que des moyens mis à profit des êtres humains. Alors effectivement, si on rentre dans une éthique écocentrée, on pourrait imaginer qu'il y ait maille à partie avec le capitalisme. Mais c'est pas ce qui est mis en avant. Et donc là, c'est quand même une forme de radicalité, vraiment. C'est-à-dire on veut changer les fondements de l'organisation morale de la société.
Parce que j'essaye de faire des correspondances avec ce qu'on sent maintenant, ce qu'on dit maintenant. Est-ce que c'est déjà une pensée qui établit la finitude du monde? C'est un mot à la mode, la finitude du monde. Le monde n'est pas infini, le progrès vorace a une butée. Est-ce qu'il y a déjà cette idée-là?
Oui, elle est même très claire, cette idée. Même qu'à un moment donné, il y a l'idée que sur Terre, on devrait être 100 millions. Donc là, c'est la pensée écologique, c'est un mouvement de réflexion qui va naître, grosso modo, à la fin du premier tiers du 19e siècle, qui va surtout se développer dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et il y a 2 critères qui permettent d'identifier ce courant de pensée. Eh bien, le premier, c'est une critique de l'anthropocentrisme. Et le deuxième aspect important, ça, c'est pas sans lien avec les technocritiques, c'est l'idée selon laquelle les techniques ne pourront pas nous permettre de nous sauver. Elles ne permettront pas de résoudre les problèmes, d'ailleurs, qu'elles occasionnent elles-mêmes. Si on regarde du côté de penseurs plutôt français, comme les Charbonneau, les Ellul, etc., là, on est plutôt dans la veine technocritique.
Vous pouvez, sur ces sujets, écouter nos 2 enquêtes de politique consacrées aux ludites et aux origines de l'écologie politique. Ils sont disponibles en podcast, comme les 40 numéros de l'émission. Et oui, déjà, on poursuit notre voyage dans le temps, dans l'histoire de la radicalité écologiste, avec le philosophe Dominique Bourg.
Et puis arrive la fin des années 60, où là, à proprement parler, va naître l'écologie politique. En France, ça va être notamment marqué par 2 choses. Le début des combats antinucléaires, le LARSAC, et puis la candidature aux élections présidentielles de 1974 de René Dumont.
On est, puisque le thème de l'émission c'est l'écologie radicale, on est quand même dans la radicalité avec René Dumont.
Avec l'écologie politique dans sa naissance, il y a une forme de radicalité, vraiment. L'idée c'est de refondre totalement la société, parce qu'encore une fois, on ne voit pas comment on pourrait répondre aux problèmes qui sont en train de monter. Et c'est pas un hasard, si je reprends la pensée écologique dont j'ai parlé avant, cette pensée écologique, c'est une des critiques les plus fortes de la modernité. Donc en fait, c'est l'ensemble de l'organisation du monde moderne qui conduit à la destruction de la nature et à la destruction de nos conditions de vie sur Terre. Donc dans le genre radical, c'est quand même pas mal.
Mais vous venez de dire nos conditions de vie sur Terre. Les choses ont évolué avec la question du réchauffement, où il ne s'agit plus de nos conditions de vie sur Terre, mais de notre vie tout court sur Terre. Il y a quelque chose de fatal et définitif. Et là, j'imagine que dans la pensée radicale, ça doit avoir un effet.
On trouve ça déjà dès le 19e siècle, avec quelqu'un comme George Perkins Marsh. Il y a l'idée que le développement de cette civilisation industrielle, en fait, est incompatible avec le fonctionnement de la nature. C'est fort. Une image prise, c'est un peu comme si on habitait une maison, on commence à détruire les lambris et on finira par détruire le plancher et les murs. Et effectivement, puisque l'écologie, c'est une critique des fondements de la modernité, on est d'emblée aux racines de notre forme d'organisation. Alors, effectivement, ça va prendre un tour concret. Oui, vous avez raison, absolument vital avec la question du dérèglement climatique. Et pas tout de suite.
Est-ce que l'activité de ces volcans ne peut pas devenir un jour telle qu'il fasse fondre la glace autour? Vous voyez les conséquences auxquelles pensent des tas de gens. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un a calculé...
Le niveau de la mer va monter.
Oui, si jamais la grande banquise fond, le niveau des mers va monter de 100 mètres.
Ce qui serait catastrophique. Mais ce ne sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle.
Oui. Expliquez-nous comment.
Haroun Taziev, c'est la première trace médiatique d'une évocation d'un potentiel réchauffement. À noter que sur ce plateau, le commandant Cousteau disait ne pas y croire du tout. Nous sommes en 1979.
Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique.
Et cette quantité de carbonique se propage dans l'atmosphère.
Dans l'atmosphère, et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre.
C'est un baratin, ça.
Haroun Taziev, vous êtes en train de paniquer les populations, là.
Si on imagine, reportons-nous à Rio en juin 92, la plupart des gens sont persuadés, si vous voulez, qu'on va pouvoir répondre aux défis climatiques. Alors, en jouant sur des techniques nouvelles, mais on va y arriver. En fait, à partir de l'échec de Copenhague 2009, eh bien, là, on voit une espèce d'inflexion. Alors, premièrement, on va voir se renforcer et se diffuser petit à petit à la décennie 2010-2020, a tout changé en matière, par exemple, de décroissance. C'est un courant essentiellement français, très minoritaire, dans la première décennie du XXe siècle.
Les décroissants.
Du XXIe siècle, les décroissants. Deuxième décennie du XXIe siècle, la décroissance s'universalise. Si vous êtes expert et sérieux, difficile de ne pas être décroissant.
On trouve quand même des espèces de mots un peu pour euphémiser ou pour adoucir la croissance durable, la croissance verte. On essaye de...
Oui, non, tout ça, c'est l'ancien monde. C'est les croissances durables, croissance verte. Oui, non, ce sont des oxymores.
Frugalité, on dit.
Alors, il y aura frugalité aussi. Mais là, non, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire, on commence à comprendre que si on ne réduit pas la masse des objets, la masse des infrastructures qu'on aménage, on ne s'en sort pas. Effectivement, le mantra du développement durable, c'était le fameux découpage. C'est-à-dire qu'on va continuer à s'enrichir, le PIB va continuer à augmenter, etc. Mais en fait, la base matérielle de nos sociétés, les flux d'énergie, les flux de matière vont redescendre. C'est sympathique, mais ça n'a jamais marché et ça ne peut pas marcher. Et
ce qui est intéressant avec l'écologie, c'est que si on la compare à toutes les autres idéologies politiques, il y a les radicaux, il y a les modérés. Généralement, ils ont à peu près le même but, mais les modérés veulent y aller doucement, éviter les violences, éviter de brusquer la population pour pouvoir intégrer le plus de nombre possible. Et là, il se trouve qu'avec l'écologie, on est confronté à un facteur qu'on ne connaît pas dans d'autres idéologies, le facteur de l'urgence. Et finalement, la radicalité devient la voie raisonnable.
Effectivement, si vous voulez continuer le système tel qu'il est, vous avez une planète inhabitable.
À partir de quand on est scientifique, on vient s'attacher comme ça avec un cadenas autour du cou?
À partir du moment où on a remarqué qu'il y a rien d'autre qui pouvait marcher.
Manifestation de scientifiques contre les méthaniers de Total le 12 mai 2023.
Les scientifiques se sacrifient parce qu'ils ne sont pas entendus. Investir dans un terminal méthanier, c'est avoir des énergies fossiles encore pour 10 ou 15 ans. Il faut en sortir.
Est-ce que c'est une décision difficile pour un scientifique de faire des actions comme celle-ci ?
C'est pas évident, parce que je crois que le scientifique, de manière générale, a l'habitude d'être un petit peu le bon élève, hein, qui respecte bien toutes les règles. Et là, effectivement, en faisant de la désobéissance civile, on sort de ce rôle.
Le radical, c'est celui qui ne veut rien changer. Celui-là nous conduit à des centaines de millions de morts.
L'extrémiste, c'est le conservateur en matière de...
C'est le conservateur, c'est le partisan du surplace. Et donc après, si vous êtes raisonnable, vous dites oui, il faut changer le plus rapidement possible. Il y a des gens qui vont dire, ben voilà, il faut aller tout de suite à la violence. C'est pas trop la tendance des écologistes. Si vous regardez l'Arzac, etc., puis vous regardez ailleurs que la France, en fait, écologie, non-violence, pacifisme, c'est quand même relativement soudé. Donc c'est plutôt la question de la désobéissance civile. Alors on peut aller jusqu'au sabotage, hein, l'éco-sabotage, ok.
Comment vous réagissez quand vous entendez parler d'éco-terroristes? Alors, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Oui, alors vous imaginez que je l'adore. Hein. Bon, éco-terroriste, c'est pas lui qui invente cette expression, ce sont les Nord-Américains. Il la reprend des États-Unis. Les États-Unis ont été confrontés, alors là, il faut carrément remonter aux années 70, on peut même remonter avant, on peut remonter au roman célèbre d'Abbé, où il conseille à des gens de, en quelque sorte, d'aller détruire, mais physiquement, les tronçonneuses, les bulldozers, etc., pour lutter contre la déforestation. Et une des pratiques courantes à l'époque, c'est de planter à hauteur de coupe des clous autour des arbres, de façon visible, de telle sorte qu'on ne puisse plus les tronçonner. Or, il y a un accident qui est involontaire, il y a un bûcheron qui ne voit pas et qui se prend la chaîne de la tronçonneuse dans la tronche. Et alors, me semble-t-il, la notion d'écoterrorisme est venue de là.
On peut dire que l'écoterrorisme a fait une victime depuis son... à peu près.
Et c'est une victime involontaire.
Bien sûr, mais quand vous voyez, par exemple, les Black Blocs, ou à Notre-Dame-des-Landes, ou dans des ZAD, des jeunes qui se cagoulent, qui se masquent, qui s'arment. Alors, c'est pas des armes lourdes, bien sûr, mais qui occupent de façon un peu forcenée des territoires. Est-ce que vous considérez que c'est de bonne guerre, si je puis dire, ou est-ce que vous considérez que c'est contre-productif, comme certains écologistes le pensent?
Alors, c'est l'histoire qui nous le dira. Mais en tout cas... Pour moi, c'est contradictoire avec mes valeurs et c'est contradictoire avec l'idée que je me fais de l'écologie.
Pourtant, alors je change de casquette dans mon petit rôle d'intervieweur, pourtant c'est bien grâce aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes que l'aéroport n'a pas été fait. Et aujourd'hui, une majorité de responsables considèrent qu'il aurait été anachronique de faire cet aéroport.
Non, mais attendez, moi, les Zadis, je suis à fond pour, que je sois très clair, j'ai absolument aucun problème avec ça. Non, après, au sein des Zadistes, tous les gens n'avaient pas la même manière de voir. En fait, le mouvement écologique, il a toujours été traversé par des contradictions, c'est normal, comme tout mouvement. Et disons qu'effectivement, ces dernières années, alors que ça n'aurait pas été le cas dans les années 70, hein, quand il y a eu un mort, par exemple, à Crémalville, c'était un mort par la répression policière. Et là, personne n'accusait les écologistes de l'époque d'être des éco-terroristes, hein. À ce que je sache. Non, là, on peut avoir des dissensions, si vous voulez, dans le mouvement. Les zadistes étaient très divers. Hein, vous aviez des gens avec des conceptions du monde qui étaient relativement différentes. Certains pour qui, effectivement, pour se défendre, et puis zone à défendre, hein, pour défendre une zone, il fallait pas hésiter. Alors, leur idée était absolument pas de tuer, mais d'utiliser des moyens pour se défendre.
Une scène d'affrontement violente, chargée par les gendarmes. Les zadistes reculent. Les forces de l'ordre utilisent des grenades de désencerclement. Nous sommes à l'ouest de la ZAD, là où doit se dérouler le grand pique-nique de soutien aux occupants. À l'aide de blindés, les gendarmes détruisent les barricades. Depuis le début de la semaine, zadistes et forces de l'ordre s'affrontent tous les jours.
Ça, c'est une certaine forme de violence, d'autres qui étaient contre ça. Et les mouvements écologiques sont toujours en proie à ses propres divisions. Si on regarde Sainte-Soline, il y a un courant, c'était celui des... Un cortège, je veux dire, c'était celui des Black Blocs, qui était venu pour en découdre. Mais ils n'étaient pas venus pour tuer du flic, je suis vraiment désolé. Ils étaient venus pour en découdre, c'est très différent. Tous les autres gens à Sainte-Soline ne venaient absolument pas avec l'idée, si vous voulez, de recourir à la violence.
Enquête de politique, la radicalité écologiste, réalisée par Christophe Imbert, archive sonore Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin. À la technique aujourd'hui, Rémi Sistiaga. On retrouve le philosophe Dominique Bourg. Nous parlons de la violence en politique.
Recourir à la violence en disant « moi je vais bouger le droit », ça paraît contradictoire. Le droit, c'est ce qui permet de trancher les conflits sans violence. Après, vous avez l'étape suivante où vous avez une forme de violence, mais le matériel, ce qu'on appelle l'éco-sabotage, c'est encore différent. Et puis ensuite, vous avez des formes de violence graduées où vous allez vous en prendre aux forces de l'ordre, etc. Là, on est sur un terrain qui est beaucoup plus glissant. Une chose est l'intention qu'on veut avoir, une autre est les conditions dans lesquelles, à un moment donné, on va se trouver piégé. Mais ce qui me semble important, c'est de ne pas, si vous voulez, afficher une espèce de volonté expresse de violence en faisant comme si c'était la seule manière de s'en sortir. S'il y avait un mouvement de masse, encore une fois, je le répète, de désobéissance civile, vous n'auriez besoin d'aucune violence. Ensuite, après, quand vous êtes face à un pouvoir qui, lui, recourt à une violence quasi guerrière, qui, lui, ne cède que lorsqu'il y a de la violence, alors écoutez, ils prennent, ces gens, une responsabilité énorme dans l'évolution d'une partie de la jeunesse, faire effectivement la revendication de formes d'action de plus en plus violentes.
Finalement, si on y réfléchit bien, la jeunesse actuelle est plutôt calme.
Écoutez, franchement, très calme. Parce que si vous avez en tête ce qu'on a commencé par dire sur l'évolution de l'habitabilité de cette planète, et si vous voyez que vous avez des gens qui sont détenteurs de l'autorité publique, qui sont censés protéger les citoyens, être les pacificateurs, et que vous voyez que ces gens-là, au contraire, ne font pas grand-chose, et même quand ils peuvent, vont faire des actions totalement contradictoires, et vous avez 20 ans, et vous savez ce qui va vous arriver, vous regardez les cartes, vous voyez les projections de dépassement de la population, vous voyez des problèmes de famine qui vont peut-être arriver, et vous avez en face des gens qui sont censés vous protéger et qui vous conduisent au massacre écologique, vous allez les applaudir. Donc là, que certains, si vous voulez, veulent une stratégie plus vive et plus ferme, je suis désolé, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très compréhensible. À mon avis, la difficulté, c'est que ça peut être un piège. Nous avons un recul que l'on n'avait pas autrefois. Il suffit de regarder simplement ce qu'ont été les révolutions du XXe siècle. Quand effectivement une société se laisse aller à la violence, vous mettez sur pied un mécanisme de sélection des pires individus. Et il n'est pas évident que la volonté réelle d'un changement vers le meilleur de la société en répondant à ces défis soit servie par cette stratégie si elle finissait par devenir dominante.